Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens comme ces samaritains. Ils ont cru, ils ont été baptisés d'eau, mais ils ne sont pas allés plus loin. Philippe n'imposa pas les mains à ces gens pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Il reconnut que c'était là un ministère réservé à un apôtre. Les apôtres de Jérusalem envoyèrent donc Pierre et Jean dans ce but précis. Quand les apôtres furent arrivés, ils prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, Actes 8, 15-16. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, Actes 8, 17. La Bible ajoute lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par, page 49, l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit, Actes 8, 18-19. » Que serait-il arrivé si, après avoir appris que la Samarie avait reçu l'Évangile, les apôtres s'étaient contentés de louer le Seigneur et d'en rester là? Eh bien, il y aurait eu des chrétiens en Samarie, mais ils auraient été des chrétiens anormaux, qui n'auraient pas reçu la promesse du Père. De tels croyants n'auraient reçu du Père aucune autorité pour aller évangéliser, et tout ce qu'ils auraient fait, sur le plan spirituel, aurait été anormal devant Dieu, même si cela avait été applaudi par les hommes. Quelle était la preuve que la Samarie avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Premièrement, disons qu'il devait leur manquer quelque chose avant que les apôtres ne leur imposent les mains. Il leur manquait quelque chose de tellement évident que les apôtres pouvaient dire avec certitude que les Samaritains n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, il a dû se passer quelque chose de bien visible, de suffisamment visible, pour qu'un incroyant comme Simon le magicien puisse voir que le baptême dans le Saint-Esprit était reçu par l'imposition des mains des apôtres, Actes 8, 20-23. La Bible dit lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Nous devons nous demander qu'a-t-il vu? Il n'a pas vu ce qui s'est passé dans leur être intérieur. Il n'a dû voir que les signes extérieurs. Quels étaient ces signes? La Bible ne prend pas la peine de le dire parce qu'il est évident que ce furent les mêmes signes que ceux que les apôtres eux-mêmes avaient manifestés le jour de la Pentecôte lorsqu'ils se mirent à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Corneille et sa maison, Actes 10, 34-38, page 50. Pierre était encore en train de prêcher un long sermon lorsque le Seigneur transforma les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Sans plus attendre, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, Actes 10, 44-48. Le fait de parler en langue et de glorifier Dieu était, pour Pierre et les Juifs présents avec lui, la preuve que ces gens avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'eux. C'est dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la même façon que les apôtres l'avaient reçu. Plus tard, en expliquant pourquoi il avait baptisé des païens, Pierre dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Et je me souvins de cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Actes 11, 1517. Les apôtres s'attendaient à ce que tous ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit le soient de la même manière qu'eux, c'est-à-dire avec des langues qui glorifient Dieu. Ces langues en étaient l'indispensable manifestation. C'est ainsi qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et c'est ainsi que Corneille et sa maison l'avaient aussi reçu. Tous ceux qui reçoivent ce même baptême devront le recevoir de la même manière. Il n'y a pas d'autre manière de le recevoir? Page 51. Les Éphésiens, Actes 19, 1-7, ces hommes avaient cru et ils étaient baptisés. Pour beaucoup d'évangélistes et de pasteurs modernes, la principale tâche aurait été terminée et ils s'en seraient allés tout joyeux. Cependant, Paul ne pouvait pas s'en contenter. Lorsque ces hommes crus furent rebaptisés, Paul voulut aller plus loin avec eux pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Il leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, 6. Que se serait-il passé si Paul n'était pas allé plus loin et ne leur avait pas imposé les mains pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, ces hommes auraient continué à vivre comme des chrétiens anormaux. La question que Paul leur avait posée au commencement « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» aurait toujours reçu cette triste réponse « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Acte 19, 2. Cher lecteur, peut-être as-tu entendu dire que le Saint-Esprit existe, mais as-tu reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Quand as-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Quand as-tu été baptisé d'eau après avoir cru? Quand as-tu reçu l'imposition des mains pour être baptisé dans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-il descendu sur toi? As-tu parlé en langue et prophétisé? Si ces choses ne se sont pas passées dans ta vie, alors ton expérience spirituelle est déficiente. Tu n'as pas encore atteint la norme spirituelle que tu aurais dû atteindre. Aujourd'hui, les hommes ont toujours besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils doivent l'être comme ils l'ont été au commencement. Page 52. Que doit-on faire pour pouvoir prétendre recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Je veux classer les qualifications nécessaires en deux groupes, bien qu'il n'y ait en réalité qu'une seule condition. Le second critère est englobé dans le premier. Il y a ce que nous pourrions appeler les conditions fondamentales et les conditions supplémentaires. Les conditions fondamentales sont les suivantes. 1. La repentance. 2. Le baptême d'eau par immersion. Lorsqu'on a rempli ces deux conditions, il faut ensuite remplir les conditions suivantes si l'on n'a pas compris qu'elles sont englobées dans les conditions fondamentales. 1. Nous devons placer Christ sur le trône de notre vie. 2. Nous devons avoir soif du Seigneur et de son Saint-Esprit. 3. Nous devons venir à celui qui baptise de l'Esprit. 4. Nous devons lui demander de nous baptiser dans le Saint-Esprit et, s'il le faut, continuer à le lui demander jusqu'à ce que nous l'ayons reçu. Nous devons placer Christ sur le trône de notre vie. Lorsque Jésus fut élevé, il s'assit sur le trône à la droite de Dieu le Père. Dans cette position d'élévation, il reçut du Père le Saint-Esprit qu'il répandit sur les premiers disciples lors de la première Pentecôte. Acte 2, 31-32. Celle-ci constitue le modèle de toutes les Pentecôtes qui ont suivi. Il nous faut d'abord élever et introniser Christ comme monarque absolu et définitif de toute notre vie. Christ doit devenir le maître de tous les aspects de notre vie, sans aucune exception. À partir de cette position, le Seigneur recevra du Père le Saint-Esprit et le répandra sur un cœur préparé. Ne pas être consacré, même dans la moindre partie de notre vie, et nous attendra une Pentecôte personnelle. Page 53. C'est de la folie. Dieu ne remplira pas un vase qui n'est pas consacré, il n'en a que faire. Nous devons avoir soif du Seigneur et de son Esprit. Beaucoup de ceux qui vont loin avec le Seigneur sont ceux qui ont soif de lui. Ils brûlent littéralement de désir pour le Seigneur. Le psalmiste dit au Dieu : Tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, 1. Le Seigneur Jésus a dit : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Personne ne doit réellement s'attendre à être baptisé dans le Saint-Esprit s'il n'a pas une telle soif du Seigneur. Car il est rare de rester insatisfait si l'on a vraiment soif de lui. Je vais illustrer en quoi consiste cette soif par une histoire vraie. Il y a quelques années, je fus invité à prêcher par des frères luthériens du Nord Cameroun pour prêcher pendant une retraite spirituelle et pour former les chrétiens à l'évangélisation. Je partageais la même chambre avec l'un de leurs pasteurs, qui était aussi l'un des orateurs. Un soir, lorsque j'entrais dans ma chambre, vers 22h, je trouvais mon camarade de chambre qui roulait littéralement d'un bout à l'autre de son lit. Je lui demandai quel était son problème. Il me répondit qu'il avait tellement soif qu'il n'arrivait pas à dormir. Ensemble, nous nous sommes mis à chercher de l'eau tout autour de la maison, mais il n'y en avait pas. Nous courûmes au seul robinet qui existait dans cette grande station missionnaire, mais il était fermé. Alors que nous étions là, confus, il me dit « Si je ne trouve pas un peu d'eau à boire, je serai incapable de dormir et je ne pourrai pas bien accomplir mon ministère demain. » Dans notre désespoir, nous nous rendîmes chez le missionnaire, dont la maison était la plus proche. Ils étaient déjà endormis. Nous ? Page 54. Frappâmes plusieurs fois à la porte. Ils se réveillèrent et lui donnèrent de l'eau dans un grand gobelet. Il la but entièrement et en redemanda. Nous pûmes ensuite regagner notre chambre, où nous dormîmes profondément. Il avait désespérément soif et voulait tellement avoir de l'eau qu'il n'aurait trouvé aucun repos tant qu'il n'aurait pas bu. Ceux qui ont soif de Christ et de sa puissance de cette manière ne peuvent pas rester insatisfaits. Le psalmiste dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi » psaume 63, 1. Nous devons venir à celui qui baptise de l'Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui baptise de l'Esprit. C'est lui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi » Jean 7, 37. Lorsque les chefs religieux virent le courage de Pierre et de Jean, sachant qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction, ils furent étonnés et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, Actes 4, 13. Si quelqu'un vient à Jésus et remplit toutes les conditions posées par le Seigneur, il sera baptisé par Jésus dans le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup recherchent le baptême dans l'Esprit, mais ne s'occupent pas de Jésus. Ils veulent des signes, des manifestations, mais ils ne veulent pas du Seigneur Jésus. De telles personnes ne recevront pas le baptême dans le Saint-Esprit. Nous devons lui demander le baptême de l'Esprit et, s'il le faut, continuer à le lui demander. Les premiers disciples ont attendu pendant 10 jours. Ces journées leur permirent de se préparer. Chacun doit attendre un certain temps. Cette attente peut durer 10 ans, 10 mois, 10 jours, 10 heures, 10 minutes ou 10 secondes. La durée dépend, page 55, de chaque individu. Jésus, qui est celui qui baptise, n'attend que le temps nécessaire pour que chacun se prépare. Plus nous nous préparerons vite, et plus vite aura lieu notre baptême dans le Saint-Esprit. Il revient à chaque chrétien de décider du temps qu'il lui faudra pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Dans le célèbre discours de Jésus sur la prière Luc 11:1-13, après avoir enseigné sur la nécessité de la persévérance, pour ceux qui veulent prévaloir avec Dieu dans la prière, Jésus termine en disant « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent » Luc 11:13. Selon l'esprit du texte, nous pouvons comprendre ce verset de la façon suivante « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et qui continuent à le lui demander ?» Demander et continuer à demander ne signifie pas que Dieu ne veut pas donner. Cela prouve que nous sommes sérieux dans ce que nous recherchons. Souvent, Dieu veut vérifier si nous sommes sérieux avec lui et si nous sommes prêts à insister dans notre demande. Après tout, le don du Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu puisse faire après le don de son Fils unique, le Seigneur Jésus. Serait-il anormal qu'il examine d'abord sérieusement la profondeur du désir de ceux qui attendent de lui un tel don ? Si nous demandons et que nous ne recevons pas immédiatement, nous devons donc nous examiner pour voir s'il n'y a en nous aucun péché qui bloque le processus. C'est seulement lorsque le Seigneur, après notre sérieux examen de conscience, a attesté qu'il n'y a aucun blocage, que nous pouvons continuer à prier. Lorsqu'il n'y a rien entre Dieu et nous, nous pouvons alors entrer dans la prière et le jeûne pour détruire le blocage provoqué par les esprits. Nous pouvons alors recevoir le Saint-Esprit avec toutes ses manifestations sur le plan humain. Quelqu'un pourrait demander quels sont les péchés qui, page 56, peuvent constituer un blocage pour mon baptême dans le Saint-Esprit. Je vais en énumérer quelques-uns, mais j'espère que le Saint-Esprit te révélera le véritable état de ton cœur. 1. Un cœur froid envers Dieu. 2. Un manque de zèle et d'ambition spirituelle. 3. Une vie de prière insuffisante. 4. Un manque de désir de lire la parole de Dieu régulièrement. 5. La peur de l'opinion publique. 6. Un esprit de compromission. 7. Le refus de donner suffisamment pour l'œuvre de l'Évangile. 8. L'orgueil. 9. Le désir de se mettre en avant. 10. L'amour de soi. 11. La glorification de soi. 12. L'élévation de soi. 13. Le mensonge. 14. L'esprit d'exagération. 15. La colère. 16. Un esprit de dispute. 17. Un esprit d'insoumission. 18. Un cœur jaloux. 19. Un esprit vaniteux. 20. Le manque de pardon. 21. Le refus de restituer une chose quelconque. 22. La paresse. 23. L'amour du confort. 24. L'amour de l'argent. 25. L'amour du monde. 26. Un esprit de critique. 27. Le fait de lier amitié avec le monde. 28. Un esprit de bavardage. Page 57. 29. La gloutonnerie. 30. Le refus de jeûner et de prier. 31. Le refus d'arrêter de pratiquer tout péché conscient. 32. Le refus continuel de répondre aux dures exigences de la croix. 33. L'immoralité sexuelle en pensée, en parole ou en acte. 34. Des relations spirituelles impures telles que la sorcellerie, le recours au talisman, la lecture des horoscopes, la consultation des guérisseurs ou de ceux qui disent la bonne aventure, etc. si l'un ou plusieurs de ces péchés se trouvent dans ta vie, élimine-les radicalement, car ils empêcheront Dieu de te donner ce qu'il a de meilleur pour toi. Finalement, laisse-moi te dire que chacun doit parvenir au bout de lui-même. Nous devons avoir l'énergie du désespoir. On raconte l'histoire d'un homme et d'un prédicateur lors d'une convention. L'orateur avait parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Après le message, l'homme désira avoir un entretien avec le prédicateur et ils sortirent pour faire un tour. Très vite, l'homme dit « Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit ». Aussi, le prédicateur commença à lui parler du Saint-Esprit tout en continuant à marcher. Puis l'homme répéta « Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit ». Le prédicateur continua à lui parler des merveilles que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. L'homme répéta sa demande. Cette fois, le prédicateur se mit à lui parler de la puissance que donne le baptême dans le Saint-Esprit pour gagner des âmes dans le royaume de Dieu. Arrivé à un certain endroit, ils s'arrêtèrent et l'homme dit au prédicateur « Je suis à bout. Je ne bougerai plus d'ici, tant page 58, que je ne serai pas baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut que je sois baptisé dans le Saint-Esprit, ici et maintenant. » Le prédicateur cessa alors de parler. L'homme s'agenouilla. Le prédicateur s'agenouilla à côté de lui et, ensemble, ils demandèrent à Jésus de baptiser cet homme dans son esprit. En quelques secondes, cet homme reçut sa Pentecôte personnelle. Cher ami, cher lecteur, es-tu parvenu au point où tu es décidé à cesser de prêcher ou de chercher toute autre chose spirituelle ou matérielle tant que tu ne seras pas baptisé dans le Saint-Esprit? Es-tu arrivé au bout de toi-même? Si tu peux continuer à vivre sans ce baptême, alors tu n'es pas spirituellement prêt à le recevoir. Comment était reçu le Saint-Esprit? Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit était reçu de nombreuses façons. Le jour de la Pentecôte, il descendit sur les disciples en prière acte 2. Dans la maison de Corneille, il descendit sur un auditoire qui écoutait l'Évangile acte 10. En Samarie acte 8, à Damas acte 9, 17 et à Éphèse acte 19, il descendit par l'imposition des mains. Les méthodes variaient, mais le même Saint-Esprit venait sur des cœurs qui étaient prêts et ouverts. Il peut être reçu aujourd'hui de la même manière. Quelle manifestation accompagne le baptême dans le Saint-Esprit ? Nous parlons ici des manifestations immédiates. Dans acte 2, la manifestation fut le parler en langue acte 2, 4. Dans acte 8, la manifestation fut évidente, mais elle n'est pas décrite. Dans acte 9, la manifestation n'est pas mentionnée, page 59. Mais la personne concernée dit elle-même qu'elle parle en langue plus que tous les autres Corinthiens encore, 14, 13. Dans acte 10, ce fut le parler en langue. Dans acte 19, ce fut le parler en langue et la prophétie. Nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, que, lors de chaque baptême normal dans le Saint-Esprit, la personne baptisée manifestera quelque chose d'inhabituel, souvent le parler en d'autres langues. Cependant, le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être identifié à ces manifestations inhabituelles, ni au parler en langue. Il va bien au-delà de ces manifestations. C'est la puissance de Dieu répandue avec abondance sur un enfant de Dieu obéissant, Acte 5, 32. Le Seigneur Jésus a voulu que tous ceux qui croient en lui parlent en langue. Il a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru un. En mon nom, ils chasseront les démons. » 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Ils saisiront des serpents. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. 5. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a prévu que ces 5 signes accompagneront ceux qui croiront. Il voulait dire que tous les chrétiens devront chasser les démons, parler de nouvelles langues, etc. Tel était le désir de Jésus. Le fait que l'homme n'ait pas réussi à recevoir ces choses comme des expériences normales ne change pas la volonté de Christ à l'égard de ceux qui croient. Si je me limite au sujet dont il est question, permets-moi de répéter que le Seigneur Jésus a dit que le signe du parler en d'autres langues suivrait ceux qui auront cru. Tu crois, n'est-ce pas? Est-ce que ce signe t'accompagne? Es-tu l'unique exception? Jésus ne veut pas qu'il y ait une seule exception. Je t'en prie, entre dans la norme spirituelle. Sois baptisé dans le Saint-Esprit et tu recevras cette manifeste à page 60, Sion et bien d'autres. D'autres manifestations peuvent précéder le parler en langue, mais le parler en langue se manifestera tôt ou tard, pendant ta marche avec le Seigneur. Le parler en langue, la Bible nous parle de nombreuses manifestations du Saint-Esprit. Lisez par exemple encore 12:1-11 et 27:31, Éphésiens 4:7-16 et Romains 12:3-8. Il est évident que beaucoup de ces dons se manifestaient dans l'Ancien Testament et dans la vie des disciples avant la Pentecôte. L'un des dons qui est le plus étroitement associé à ce qui se produisit le jour de la Pentecôte est le parler en langue. Avant la Pentecôte, il y eut des prophéties, des guérisons, des miracles, etc. La Pentecôte est venue avec le parler en langue et l'interprétation des langues. C'est avec raison que l'on appelle le don des langues le don spécialement associé à la Pentecôte. Pourquoi ce don fut-il accordé? Tout d'abord pour servir Dieu. La Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères encore. » 14:2. L'utilisation essentielle de ce don est pour Dieu. Ne devrions-nous pas désirer ardemment un don qui nous permet de dire à Dieu des mystères en esprit? La réponse à cette question est évidemment oui. Deuxièmement, le parler en langue fut donné pour notre propre bénéfice. La Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même encore. » 14:4. Ce n'est qu'en troisième lieu que les langues, associées à l'interprétation, rendent un ministère au corps de Christ un corps. 14:26-28. Permets-moi de te demander une fois, encore ne devrions-nous pas désirer ardemment un don qui doit nous édifier, de sorte qu'une fois édifiés, nous puissions édifier les autres? Là encore, la réponse est évidemment oui. Il faut tout de suite. Page 61. Souligner que les langues doivent surtout être utilisées en privé. Mais nous insistons sur le fait que nous devons posséder ce don et que nous devons nous en servir. Celui qui ne peut parler en langue ne peut pas prier par l'esprit. La prière par l'esprit, il s'agit de l'esprit humain étant fait la prière en langue. L'apôtre Paul a dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile encore. » 14:14-19. Chaque chrétien peut prier par l'esprit, fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, Éphésiens 6:18. Notez que l'esprit mentionné, ici est le Saint-Esprit, avec un E majuscule, alors que le parler en langue, par l'esprit s'écrit avec un E minuscule, parce qu'il s'agit de l'esprit humain saisi et utilisé par le Saint-Esprit. La prière faite avec l'intelligence, inspirée et contrôlée par le Saint-Esprit, fait partie de la prière par l'esprit. La prière en langue fait aussi partie de la prière par l'esprit. Mais, à cause de sa particularité, elle est appelée la prière par l'esprit. Tous les chrétiens, jusqu'à un certain niveau, peuvent prier par l'esprit, mais seuls ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui parlent en langue peuvent entrer dans cette dimension particulière de la prière par l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu traite directement avec l'esprit humain. La prière en langue est celle qui est reçue directement dans l'esprit humain. C'est souvent une prière inconnue de l'intelligence humaine, mais offerte à Dieu par celui qui prie en langue. L'apôtre Paul a dit que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence un corps. 14-15. Si Paul avait besoin de faire les deux, ne vois-tu pas qu'en te privant du baptême dans le Saint-Esprit et, par conséquent, en ne priant et en ne chantant, qu'avec ton intelligence, tu te contentes de quelque chose d'inférieur à ce que Dieu a de meilleur en réserve pour toi ? Ne vois-tu pas que ta prière est en dessous de la normale, même si tu pries bien avec ton intelligence ? Ne vois-tu pas, page 62 ? Tu pas qu'en étant incapable de parler en d'autres langues, tu ne peux pas dire à Dieu des mystères en esprit ? Veux-tu rester dans cette condition ? Le but de la Pentecôte, quelle que soit la valeur du parler en langue, ne pensons pas que le baptême dans le Saint-Esprit ait pour but de produire des gens qui parlent en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit a pour but de revêtir de puissance celui qui le reçoit pour rendre un témoignage radical en faveur du Seigneur Jésus. Ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit devaient recevoir une puissance pour être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 8. Finalement, pour savoir si quelqu'un a été effectivement baptisé dans le Saint-Esprit, il nous faut considérer son engagement à gagner des âmes pour le royaume et à s'occuper d'elles. Si l'on rencontre un chrétien qui vit dans l'insouciance, sans se préoccuper des âmes perdues ni du Seigneur, mais qui se vante d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut lui demander « As-tu reçu le même Saint-Esprit que les premiers disciples ?» Le baptême dans le Saint-Esprit a aussi pour but de produire en nous un amour intense pour le Seigneur Jésus. Si quelqu'un n'a pas le désir croissant de connaître Jésus, de lui obéir et de prier le Seigneur en son nom, quelque chose doit être déréglé dans son expérience spirituelle. Le baptême dans le Saint-Esprit est la maturité chrétienne. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous ne devenons pas automatiquement mûrs. Comme nous l'avons clairement vu, c'est une expérience par laquelle il nous faut, page 63, passer dès le début de notre vie chrétienne. Il est donc normal de rencontrer des chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui sont encore jeunes dans la foi. Le but du baptême dans le Saint-Esprit est d'aider les chrétiens à persévérer jusqu'à la maturité spirituelle. Si, après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, nous persévérons dans une vie de consécration et de soumission absolue, nous progresserons dans la voie de la croix et nous atteindrons la maturité et la perfection, à la fois dans le caractère et dans le service. Si, en revanche, nous sombrons dans la désobéissance en suivant les désirs de la chair, et si nous abandonnons la voie de l'obéissance, nous conserverons le don des langues comme un simple bruit, et nous ne serons qu'un vase vide et bruyant. Il y a de la puissance dans le Saint-Esprit. Mais il y a aussi de la puissance dans une vie consacrée, dans la croix, dans la parole de Dieu et dans la prière. Le but de Dieu est que le disciple puisse utiliser toutes ses sources de puissance spirituelle pour mener une vie chrétienne efficace. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, mais que nous négligeons l'une de ces sources de puissance spirituelle, notre efficacité sera grandement limitée. En revanche, il y a des chrétiens qui n'ont jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais qui ont cependant largement exploité l'une ou plusieurs de ces sources de puissance. Ceux-là ont accompli de grandes choses pour Dieu. Que devons-nous donc faire ? Nous devons tout d'abord recevoir l'indispensable baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, notre ministère d'évangélisation ne serait pas mandaté par Dieu. Le Seigneur n'envoie pas ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit par Christ. Jésus a dit aux premiers disciples « Ainsi il est, écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêches en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez, page 64, dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, Luc 24, 48-49. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Ainsi, nous devons persévérer dans la voie d'une consécration totale au Seigneur Jésus, dans l'obéissance, la prière et la parole. Si nous pratiquons tout cela, nous ne manquerons jamais de puissance. En conclusion, le Saint-Esprit, habitant tous les chrétiens dès le moment de leur conversion, dans le but de produire en eux le caractère de Christ. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, qu'il est répandu sur nous et reçu d'une manière spéciale, il s'agit alors de ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, dont le but est de communiquer la puissance de Jésus-Christ pour le service spirituel. les chrétiens qui réalisent leur besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit doivent remplir les conditions posées par Dieu Jean 7, 37-39, Acte 2, 38, Luc 24, 46-48, Luc 11, 13. Lorsque le baptême dans le Saint-Esprit est accompagné d'une soumission inconditionnelle tout au long de la vie, dans une obéissance totale, dans la prière et la parole, cela produit des chrétiens qui satisferont le cœur de Dieu. Le Seigneur est prêt à te baptiser dans le Saint-Esprit maintenant même si tu acceptes de remplir ces conditions. Conseil pratique pour ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit 1. Assure-toi que ta conversion est authentique et que tu es un véritable enfant de Dieu. Lis Jean 1, 12. 2. Confesse tous les péchés de ta vie, tous sans exception. Dieu ne te remplira pas du Saint-Esprit si tu continues à garder page 65. Le péché dans ton cœur. 3. Abandonne tous les péchés et les penchants impurs que tu as confessés. Si tu confesses des péchés, mais que tu n'es pas prêt à les abandonner, tu ne fais que t'amuser avec Dieu. Romps toutes les relations impures dans lesquelles tu es engagé, s'il le faut, restitue ce que tu as injustement acquis. 4. Obéis à Dieu dans tous les domaines dont parle la Bible. Le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, Acte 5, 32. Par exemple, si tu t'es repenti et que tu ne t'es pas fait baptiser d'eau après ta repentance, tu vis dans la désobéissance. La Bible dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit, Acte 2, 38. Ceci n'est pas le seul sujet d'obéissance. Tu dois obéir à toute la vérité que tu connais. 5. Si tu peux trouver une personne qui possède les véritables qualifications spirituelles, demande-lui de t'imposer les mains pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Si tu ne peux pas trouver une telle personne, retire-toi dans la solitude, prie et demande au Seigneur de te baptiser dans le Saint-Esprit. Normalement, le baptême dans le Saint-Esprit est l'un des ministères de l'Église locale. C'est elle qui a la responsabilité de gagner des âmes à Christ, de les enseigner, de les baptiser d'eau et de prier pour qu'elles soient baptisées dans le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi attendre? Lève-toi, sois baptisé d'eau, reçois le baptême dans le Saint-Esprit par la foi, et les signes suivront. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, Matthieu 11, 24. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé à Jean 5, 14-15. Or, la foi est page 66. Une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, Hébreux 11, 1. Question 1. Qu'est-il arrivé au Seigneur Jésus après avoir été baptisé dans les eaux du Jourdain? 2. Jésus était-il rempli du Saint-Esprit avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui au Jourdain? 3. Pourquoi fallait-il que le Seigneur Jésus soit loin du Saint-Esprit? 4. Jésus a-t-il commencé son ministère public immédiatement après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit? Explique ta réponse. 5. Comment les premiers disciples se sont-ils préparés pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? 6. Comment les premiers disciples reçurent-ils le Saint-Esprit? 7. Quelles manifestations accompagnèrent le baptême dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? 8. Quel résultat le baptême dans le Saint-Esprit produisit-il sur les premiers disciples? 9. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit était-il une nécessité pour les premiers disciples? 10. Les Samaritains ont-ils reçu le baptême dans le Saint-Esprit aussitôt après avoir cru et après avoir été baptisés d'eau? 11. Pourquoi l'église de Jérusalem envoyait-elle Pierre et Jean en Samarie? 12. Qu'arriva-t-il quand les apôtres imposèrent leurs mains aux croyants de Samarie? Page 67. 13. Comment Pierre et ceux qui étaient avec lui surent-ils que Corneille et sa maison avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit? 14. Que serait-il arrivé si Paul avait conduit les Éphésiens au Seigneur et était reparti sans plus s'occuper d'eux après les avoir baptisés d'eau? 15. Quelles sont les quatre choses que doit faire un chrétien pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? 16. Qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? 17. Tout chrétien qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit doit-il parler en langue? Justifie ta réponse par des passages bibliques appropriés. 18. Signe trois fonctions du don des langues. 19. Donne la différence qui existe entre prier avec l'esprit et prier par l'esprit. 20. Peut-on être baptisé dans le Saint-Esprit et manquer tout de même de puissance spirituelle? 21. As-tu été baptisé dans le Saint-Esprit? 22. Es-tu rempli du Saint-Esprit maintenant? Page 68. Troisième partie, le témoignage chrétien. Le commandement de témoigner, le Seigneur Jésus a donné à ses disciples l'ordre de témoigner lorsqu'il leur a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 1618. Le Seigneur a dit encore « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18-20. Il leur a dit aussi « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit aussi « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, Jean page 69. Verrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 44-49. Le Seigneur donna ce commandement initial aux 12 apôtres. Cependant, son intention n'était pas de se limiter à eux. Il devait faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner à faire eux-mêmes des disciples. Ceci veut dire que tous ceux qui entendent l'Évangile et qui croient à l'Évangile doivent faire en sorte que d'autres entendent et croient aussi à cet Évangile. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ceux qui y entendent l'Évangile et croient ne fassent rien pour qu'une autre personne entende et croie aussi à l'Évangile. La propagation de l'Évangile est comme une réaction en chaîne. Chaque enfant de Dieu est appelé à entretenir cette réaction. La puissance pour témoigner, la puissance dont nous avons besoin pour témoigner provient de deux sources. Tout d'abord, elle réside dans le Seigneur Jésus lui-même. Il a promis d'accompagner les disciples dans leur tâche d'évangélisation mondiale. La présence de Jésus en nous nous assure que notre témoignage concernant Jésus est vrai, car nous avons nous-mêmes accepté le Seigneur Jésus. À défaut de cela, nous serions de faux témoins. La puissance pour témoigner nous vient aussi du baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur donna l'ordre aux disciples d'aller évangéliser le monde, mais il leur dit « Restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, 49. Il leur dit ensuite « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1, 8. Page 70. Les disciples attendirent, et le jour de la Pentecôte arriva. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, et furent revêtus de la puissance d'en haut. Après cela, ils s'en allèrent témoigner. Ils rendaient témoignage au Seigneur crucifié et ressuscité, dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur leur avait dit d'attendre qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. S'ils avaient désobéi et s'en étaient allés sans l'onction, ils seraient partis d'eux-mêmes, et leur travail n'aurait jamais été l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui veulent être des témoins doivent remplir deux conditions fondamentales. Ils doivent avoir reçu le Seigneur, et ils doivent avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Quiconque ne remplit pas ces deux conditions ne peut pas être un témoin de Jésus. Tout ce qu'il fait finira par bloquer les desseins de Dieu. Quel message doit annoncer le témoin de Jésus? Un témoin de Jésus doit d'abord connaître clairement l'Évangile avant de pouvoir témoigner efficacement. Il est vrai que le Seigneur bénit souvent le témoignage d'un jeune converti qui peut ignorer certaines parties de l'Évangile. Mais le désir de Dieu est que le témoin comprenne parfaitement l'Évangile et le présente clairement afin que celui qui l'écoute puisse le comprendre clairement pour pouvoir prendre une décision intelligente. Voici donc un résumé de l'Évangile. 1. La réalité du péché. La parole de Dieu dit clairement que tous les hommes ont péché. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est. Page 71. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, 2-3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, à tel point que toutes les bonnes œuvres faites en dehors de Christ sont comme un vêtement souillé. La parole de Dieu dit « Nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé » Ésaïe 64, 5. La nationalité, la religion, l'éducation, etc. ne peuvent pas ôter le péché. 2. La conséquence du péché. Le péché reçoit un salaire. Personne ne peut pécher sans rester impuni. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La mort a une double dimension. Il y a la mort physique, qui est une conséquence du péché, et qui s'étend à tous les êtres humains. Il y a aussi la mort spirituelle dans les temps de feu. La Bible dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 21, 8. Dieu est fidèle. Il veillera à ce qu'aucun pécheur ne manque son salaire. Il y a aussi les conséquences du péché qu'expérimentent présentement ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce salaire se traduit par des foyers brisés, des engagements brisés, des vies brisées, d'innombrables enfants qui souffrent d'être nés en dehors du mariage, le népotisme, la corruption, les maladies vénériennes, etc. Le jugement est certain. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. 3. Le chemin pour sortir du péché, l'amour de Dieu, page 72. Bien que Dieu haïsse le péché et doive punir le pécheur non repenti, il aime les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, bien qu'il haïsse leur péché. L'amour de Dieu est le don de son Fils. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. La mort de Christ, la conséquence du péché, c'est la mort. Le pécheur doit mourir pour son péché, mais, parce que Dieu aime les pécheurs, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à leur place. La Bible dit « Christ est mort pour nos péchés » 1 Corinthiens 15, 3. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8.